Nous sommes dans une période forte en élections entre les municipales 2026 et les présidentielles 2027. Mais alors que la liberté de la presse représente une clé de voûte de la démocratie, les journalistes font face à des bouleversements dans la pratique de leur métier. Entre IA, algorithmes, méfiance envers la presse ou encore procès Bayon, pour parler de ces menaces, l'interview de l'Auberge espagnole reçoit Henri Frasque, journaliste et correspondant de l'OFALP. Bonjour.
Bonjour.
Et nous écouterons aussi le témoignage de Badis, un jeune journaliste. Henri, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu votre parcours ?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai 57 ans. Je suis journaliste actuellement indépendant. J'ai longtemps travaillé pour des journaux d'ici, la Gazette de Montpellier et la Lettre M. Et actuellement, je suis donc indépendant et je travaille principalement pour Le Point et pour Ouest France. Donc, je suis leur correspondant dans la région.
Qu'est-ce que c'est que l'OFALP ?
Alors l'OFALP, ça veut dire l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. C'est une petite association en fait qui est née en 2023, qui est née en marge des assises qui ont lieu d'ailleurs en ce moment, les assises de l'information à Tours. Mmh. Et donc un groupe de journalistes dont je ne faisais pas partie à l'origine, des journalistes indépendants, des journalistes d'investigation, mais pas que, une vingtaine de personnes. On sont partis d'un constat, c'était une année, alors on était en 2023, on sortait de l'histoire de Sainte-Soline, où il y avait des affrontements très violents donc entre des manifestants, des gendarmes, et où les journalistes étaient un peu retrouvés au milieu, il y avait pas mal de journalistes qui avaient été blessés pendant ces événements. Et donc il y avait un constat à ce moment-là, c'était... Il y a un certain nombre d'atteintes à la liberté de la presse qui existent, mais on ne sait pas très bien comment les quantifier. Et donc, c'est de là qu'est née cette association.
Et donc, l'OFALP, leur but, c'est de quantifier les atteintes à la liberté de la presse.
C'est ça. C'est de faire quelque chose, c'est d'objectiver, c'est de dire, voilà, ça existe, on sait que ça existe, on sait qu'il y a un tas d'atteintes à la liberté de la presse. On sait qu'il y a des journalistes qui sont empêchés de faire leur travail, soit qu'effectivement, là, c'était le cas pendant une session, mais... Les atteintes à la liberté de la presse prennent tout un tas de formes, mais on voudrait savoir ce qu'il en est précisément, quels sont les faits. Voilà.
Et vous, en tant que correspondant, quel est votre job, quel est votre poste, quelles sont vos missions ?
Alors, mon job, c'est très simple, c'est totalement bénévole, c'est simplement d'alerter. Et d'ailleurs, je suis pas le seul, on est plusieurs à alerter. En gros, dès qu'il y a une atteinte, dès que des journalistes, on va dire, sur l'ex-langue de Croussillon, pour faire simple, sont victimes d'une atteinte à la liberté de la presse, j'alerte l'OFALP. Voilà. Et ensuite, alors c'est le début d'un processus. Ensuite, moi j'essaie de récupérer un maximum d'informations sur ce qui se passe. Ça remonte à l'OFALP qui ensuite va enquêter. Il y a tout un système de validation. C'est pas c'est pour que ce soit sérieux, vérifié et recoupé.
Est-ce que vous avez un exemple de situation que vous avez rapporté à l'OFALP ?
Oui. Alors j'en ai plusieurs. c'est des cas très concrets. Hein. Par exemple, on va prendre l'exemple du journal, un journal ici qui est très connu, qui est Midi Libre, donc le quotidien régional. En juin dernier, vous avez un journaliste de l'agence de Midi Libre à Nîmes qui a été convoqué en audition libre en tant que témoin par les policiers de la division de la criminalité organisée spécialisée. Alors c'était dans le cadre donc, d'une enquête sur un de ses articles où il avait fait un article sur la gestion des corridas dans le Gard et... il a été auditionné et en fait on cherchait à en savoir plus sur ses sources et donc en fait il est ressorti et c'est un exemple, je peux vous en donner d'autres, hein, des exemples plus récents, alors Midi mais pas que, ça peut être par exemple je vais vous redonner un exemple sur ce journal, par exemple dans une manifestation, ça se passe plus récemment, en décembre on a des agriculteurs qui manifestent, on est à Béziers, et on a des agriculteurs de la coordination, enfin, et un en particulier de la coordination rurale, qui n'est pas content, tout simplement, de l'article des journalistes de Midi Libre à Béziers. Ces journalistes sont un péage, et un journaliste et une photographe, et Bon, il pourrait effectivement, quand on n'est pas content d'un article, on peut tout à fait ne pas être content d'un article. Ils auraient pu porter plainte, ils auraient pu porter... Enfin, voilà, il y a tout un tas de procédures qui existent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la voiture des journalistes, ils l'ont mis sur un pneu et ils les ont immobilisés. Voilà. Okay. Bon, c'est pas gravissime, mais c'est...
Mais c'est, une manifestation d'un mécontentement envers la presse et ça les empêche de faire leur travail,
ça les empêche, ça les a clairement empêchés de faire leur travail. Alors, ils ont quand même fait un article, mais il y a eu des frais de dépannage, etc. Plus grave, à mon avis, toujours sur ce journal, on était là, on est plus récemment, on était en janvier et on avait un... Il y avait, si vous vous en souvenez, il y a eu des restrictions, une interdiction de commercialiser les huîtres de l'étang de Thau. Et là, un certain nombre d'ostréiculteurs n'étaient pas contents de ces mesures, ça on peut le comprendre, mais ils n'étaient aussi pas contents de la façon dont
Midi-Libre,
le journal, après je vous donne un autre exemple, il n'y a pas que Midi-Libre, dont ce journal avait couvert ces événements. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus devant le journal le soir, donc au moment où le journal est bouclé, mis sous presse, et ils ont fait un feu de pneus devant le portail, ils ont immobilisé le journal pendant un certain temps. Ça a duré 4 heures, il a fallu que les gendarmes, là, pour le coup, interviennent, le tout avec des slogans très, très hostiles contre la presse, et le journal a failli ne pas sortir. Donc là, très clairement, ça a failli avoir une incidence très directe.
Et donc là, on voit que les menaces, elles viennent des manifestants, des agriculteurs, etc. D'où est-ce qu'elles peuvent venir, outre ça, ces menaces? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui menacent la presse?
Alors, dans les acteurs qui menacent la presse, je vais essayer de ne pas vous balancer trop de chiffres, parce que sinon ça va être ennuyeux. L'OFALP, en fait, ils ont fait un premier rapport. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont fait un premier rapport qui porte sur l'année 2024. Ils vont faire ensuite, qui est sorti récemment, comme c'est une jeune asso qui a assez peu de moyens, ils vont ensuite sortir le rapport 2025, ce qui permettra de faire des comparaisons. Ce qui est intéressant quand même, on a quand même un certain nombre de données sur ce premier rapport. Et donc ils ont examiné 130 faits. Alors là, on ne parle pas que de Montpellier, Nîmes, le Languedoc-Roussillon.
Mais sur toute la France.
Voilà, sur toute la France. Ils ont examiné 91 faits. Ils ont examiné 130, ils en ont retenu 91. Et ils ont classé tout ça, comme je disais au début, pour objectiver en un certain nombre de catégories et de sous-catégories. Je vais pas vous la citer, il y en a 19, mais il y en a une principale qui représente une atteinte sur deux, qui est les atteintes à la sécurité, à l'intégrité physique et morale. Et j'en viens à votre question. Qui sont les auteurs de faits? Dans 38 cas, dans 38 cas, donc ça représente 4 cas sur 10, les auteurs de faits, ce sont des acteurs publics ou des représentants de l'État. Donc ce sont beaucoup des forces de l'ordre, mais ce sont aussi des parlementaires. Dans 8 cas, et quand on dit des parlementaires, c'est souvent des parlementaires d'extrême droite dans la majorité des cas.
Ok. Et donc il y a les parlementaires, les manifestants notamment qui menacent la presse. Et est-ce que vous avez vous-même des fois été victime de pression sur votre travail? Est-ce que vous avez déjà senti que vous ne pouvez pas l'exercer pleinement?
Alors c'est une réponse compliquée. Alors, en 30 ans de métier, oui, forcément, il y a des pressions diverses et variées. J'ai déjà été attaqué en justice en diffamation dans un procès que j'ai gagné. Oui, il y a toujours des pressions directes ou indirectes. On va toujours. Alors les pressions indirectes, ça peut être sur votre média, ça peut être un budget qu'on vous coupe, par exemple. Ça peut prendre vraiment des formes très, très différentes. J'ai déjà été menacé aussi, ça m'est arrivé, après avoir couvert un procès, mais bon, ça, c'était qu'un
monsieur... verbalement
Verbalement et physiquement, mais bon, parce que c'est simplement un prévenu qui n'était pas content, qui ne voulait pas que la presse soit là. Bon, ce genre de choses, ça ne m'a pas empêché de faire l'article, ça ne m'a pas empêché de faire mon travail. Ça ne m'a pas empêché de faire mon travail, moi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces menaces... ces pressions et ces atteintes à la liberté de la presse, ça a une conséquence très concrète. C'est-à-dire que, d'après le rapport de l'OFALP, encore une fois, là je ne parle pas de mon cas personnel, on a dans 60% des cas, ça va avoir une répercussion sur la production d'informations. Ça veut dire que les journalistes vont s'auto-censurer, vont éventuellement brider un peu leurs plumes ou vont sortir une partie de l'info ou ne pas sortir l'info.
Je vous propose de poursuivre cette interview très intéressante de l'Auberge espagnole après une courte pause.